À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question du maréchal Lyoté. Le maréchal Lyoté, c'est vraiment quelqu'un de très important. Si on regarde dans les dictionnaires son nom, il y a même sa photo, L-Y-A-U-T-E-Y. Il a connu Charles de Foucault. Il a eu une vie extraordinaire. Rempli de dévouement, de don de lui-même. Il est passé d'une jeunesse pleine de ferveur à une quasi-perte de foi pour la retrouver à la fin. C'est ce qu'on voit souvent. Mais dans son cas, c'est extrêmement intéressant et c'est raconté par sa belle-fille. Elle a épousé Monsieur Lyoté, le fils du maréchal. C'est Hélène Fortou qui a déjà écrit plusieurs ouvrages. Et je m'inspire en partie de son texte et d'autres choses, et de choses que j'ai trouvées aussi dans Marie de Cassion du Perron, etc. Hubert Lyoté, c'était son prénom, Hubert Lyoté, ce maréchal Lyoté. Il avait même comme nom Louis-Hubert Gonzalve. Il est né à Nancy. Nancy, c'est en Meurthe-et-Moselle, donc c'est à la même hauteur que Paris, mais à 300 kilomètres à l'est, vers l'Allemagne. Donc, il est né à Nancy le 17 novembre 1854, puis s'est proclamé toujours, et passionnément, et presque orgueilleusement, Lorrain. C'est un Lorrain. Vous savez, cette région de la France qui est passée de la France à l'Allemagne et tout ça, et qui est très attachée à la France, la Lorraine. Il descendait d'ailleurs d'une lignée d'intellectuels. Et les goûts de ses ancêtres, leur destin, entraînaient le jeune Hubert, dès son jeune âge, à vouloir servir la France, servir l'État. Je vous donne un exemple. C'est intéressant de voir comme les ancêtres peuvent marquer un enfant. C'est pourquoi il y a ici beaucoup de gens qui s'intéressent à la généalogie, qui veulent savoir qui sont nos ancêtres pour savoir ce qu'ils ont vécu dans la mesure où on est capable. Son arrière-grand-père, Pierre Lyoté, son arrière-grand-père a été ordonnateur en chef des armées de l'Empire sous Napoléon. Son grand-père, lui, Hubert, était polytechnicien. Et puis, il a fait comme lieutenant d'artillerie la campagne de Russie. Oui, il est allé jusqu'en Russie, vous savez, cette fameuse campagne de Russie sous Napoléon. Puis, il est devenu général. Il a servi ensuite la monarchie, les rois de ce qu'on appelle la monarchie de Juillet. Puis il a fini sénateur du Second Empire sous Napoléon III. Enfin, son père, lui, qui s'appelait juste J-U-S-T, tout simplement, Lyoté, un ingénieur polytechnicien qui s'est distingué dans les travaux du canal de la Marne au Rhin. Il épouse son père, Laurence de Grimoux de Villemotte, qui est de souche à la fois normande et lorraine, et qui est établie à Nancy. Alors, leur fils aîné, Hubert, le maréchal Lyoté, va devenir le maréchal Lyoté, est vraiment un garçon qui vit dans une atmosphère familiale empreinte de sérieux, quoi. L'autorité du pater familial, son grand-père, puis son père, d'ailleurs, n'est pas tombée en désuétude. Il y a de l'autorité dans cette famille. Mais cependant, plus qu'un autre enfant, Hubert Lyoté est élevé par les femmes. Comment ça? C'est qu'il lui est arrivé tout jeune, bébé, un accident qui aurait pu être fatal. Je vous raconte ça, c'est quelque chose d'un événement étrange. D'ailleurs, cet accident l'a retenu longtemps à la maison. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais à 16 mois, ce petit Hubert Lyoté, 16 mois seulement, donc un an et 4 mois, comme vous le savez, il glisse des bras de sa nourrice qui contemple un défilé militaire. Il tombe d'un premier étage dans la rue. Heureusement, il y a un cuirassier qui le retient dans sa chute. La chute aurait été mortelle. Mais ce pauvre bébé, il lui reste une déviation à la colonne vertébrale. Alors, il y a des opérations, allongement de plusieurs années, corset de fer. Jusqu'à l'adolescence, quoi, le jeune Hubert marche difficilement. Qui penserait qu'il deviendrait cavalier, maréchal de France? C'est extraordinaire, hein, la volonté. Alors, les jeux vifs de l'enfance, il n'a pas connu ça, lui. À la place, bien avant l'âge, il se met à l'étude, à la réflexion. Ça change toute son enfance. Il y a les influences de sa mère, aussi de sa grand-mère maternelle. L'une et l'autre sont profondément chrétiennes. Elles imprègnent ce petit enfant infirme, supérieurement doué d'ailleurs, d'une foi vivante. Et de cette première épreuve, Hubert Lyauté, inconsciemment, en tire profit finalement. Souvent, la maladie entraîne quelqu'un à réfléchir davantage, regarder certains aveugles, qui ont une vie intérieure beaucoup plus grande que la nôtre, qui sommes distraits par notre vue, chose étrange. Et je dis pas qu'on devrait être aveugle, mais j'ai vu des aveugles avoir une vie intérieure extraordinaire. Ils forgent sa volonté, lui, avec passion. Il domine sa faiblesse physique par son travail, puis dès qu'il est debout, c'est par son action qu'il domine. Et si l'on veut dégager vraiment les valeurs principales du caractère de Lyauté, il faut mettre d'abord l'accent sur sa maturité précoce, grâce à cet accident, si on peut dire, sur son goût inné de l'ordre aussi, de l'organisation, sur son sens si rare de la brièveté de la vie. Il a senti ça très jeune, mais il a failli mourir à 1 an et 4 mois. Il sait que la vie, c'est fragile. Hubert Lyauté ne perd pas son temps. À 16 ans, il commence à ronger sur son sommeil. Il ne s'accorde que 5 heures seulement. Pour allonger, dit-il, le peu d'années utiles qui nous est dispensé. C'est vrai que c'est court la vie, hein? J'en ai 72, j'en avais 17 il y a 2 mois, je crois. Non, peut-être 2 ans. Ça passe vite. En somme, la jeunesse de Lyauté est chrétienne de cœur et de fait. Et on peut le voir dans sa correspondance, puis son journal intime, c'est un petit cahier brun, son meilleur confident qui a été conservé, on peut lire ça. En 1873, à 18 ans, il se présente à la fameuse école de Saint-Cyr pour s'entraîner, puis il est reçu, et Lyauté reste là, puis il devient cavalier. Fameuse école de Saint-Cyr, en France. Alors, ce jeune homme est toute passion, flamme, ambition. Il a de l'ardeur, il veut servir son pays, il veut devenir quelqu'un. Il est assoiffé d'action et de savoir. Il tente d'élargir sa connaissance dans tous les domaines profanes et religieux, mais, comme tous les enthousiastes, Hubert Lyauté a des périodes de grande dépression. D'accord, il prend très vite la tête de sa promotion, mais ses débuts à Saint-Cyr apportent des déceptions à ce jeune officier, qui conçoit le métier militaire comme une mission. Il y a de l'idéal, lui. Mais heureusement, Lyauté trouve son orientation. Et c'est une orientation définitive vers le social, au sein de sa carrière militaire extraordinaire. Et avec sa fougue, c'est ce qui fait souvent la caractéristique des Français. La fougue, ça nous manque un peu, nous, me semble. On est un peu trop délicat, un peu trop colonisé, me semble. La fougue, sa fougue coutumière, bien, il s'emballe pour le catholicisme appliqué, un catholicisme qui est concret. Et son cahier, là, son fameux journal, quoi, son cahier brun, se couvre de confidences. Voici, par exemple, quelques lignes prophétiques. Il écrit, tout jeune, quoi, « Les hommes de cœur, même quand ce sont des jeunes gens, ont une autre voie à suivre que celle du plaisir et de l'indifférence. » C'est pas compliqué, c'est simple, mais c'est tellement vrai que je la répète. « Les hommes de cœur, même quand ce sont des jeunes gens, ont une autre voie à suivre que celle du plaisir et de l'indifférence. » Mais il y a un autre texte dans ce fameux cahier brun qui est plus probant. Ça projette une lumière particulière sur l'âme de Lyauté. Écoutez, ça, c'est très spécial. Ça marque toute sa vie. « Quel jour que celui où la notion d'infini se dressa devant moi et où j'eus la vision de Dieu. J'ose dire, de ce Dieu que mes lèvres honoraient machinalement et que je vis tout à coup, concentrant dans son essence même toutes ces notions de grand, de parfait, d'infini, d'universel, de nécessaire, qui surgissaient une à une devant mes yeux, immenses déjà séparément, et se ramenant à cette cause unique qu'est Dieu, dont je proférais le nom depuis tant d'années sans comprendre ce qu'il recouvrait. Oh, combien j'en aime le souvenir de ce jour d'hiver où je vis toutes ces choses. Écrasé, je fléchis et me prosterner, puis je pleurai. Voici le jour dont je fais dater le commencement de ma vie, de la vie de mon âme et de ma pensée. Jamais, jamais auparavant je n'ai joui comme depuis, mais jamais aussi je n'avais autant souffert. C'est un texte extrêmement important du futur maréchal Lyautey, hein, qui permet de classer ce Lyautey parmi ceux dont l'âme a pu, à certains moments, s'épanouir jusqu'aux limites extrêmes de la connaissance. Il faut pas prendre, évidemment, à la lettre le mot de vision qui demande à être employé avec circonspection. Mais disons qu'il y eut, ce soir d'hiver, dont parle le texte là, une sorte d'illumination intérieure qui a donné à cet adolescent une impression de plénitude divine. Et ça a baigné longtemps ce cœur inquiet. En hiver 1875, le jeune lieutenant Lyautey, écoutez bien, va passer 10 jours à la Grande Chartreuse. Il y retourne l'année suivante. Il étudie sous la direction, les conseils du père de Nicolai. Comme mon metteur en nom Nicolai Diouskin, de père de Nicolai. Il est général des Chartreux. C'est un ancien officier de l'armée du Tsar qui est passé de l'orthodoxie au catholicisme, d'une église à l'autre, qui sont des églises sœurs, en fait. C'est au fond la même église. Comment ça se fait qu'on est séparés? Quelle tristesse, hein? Et là, il étudie avec lui le sens profond de l'Évangile, selon saint Jean, qui dit « Dieu est amour ». Il confie alors au père de Nicolai, général des Chartreux, ses aspirations assez vagues d'ailleurs vers une vie religieuse. Mais le père de Nicolai, très tôt, il s'empresse de lui démontrer que là n'est pas sa vocation et que Lyautey doit reprendre sa carrière d'officier. Et vers cette époque, eh bien, son régiment est expédié en Algérie, puis là, le contact avec les pays du soleil enivre Lyautey d'une joie presque sensuelle, puis commence à comprendre aussi la leçon du désert, la méditation du Dieu sans visage. Et cela, il ne l'oubliera pas. Et c'est donc en Algérie, à Constantine, qu'il rencontre un autre lieutenant des hussards, c'est Charles de Foucault, dont je vais vous parler le 1er décembre encore une fois, Charles de Foucault. Tous deux, alors, mènent ce qu'on peut appeler la joyeuse vie. Hein, Foucault a 23 ans, lors de leur rencontre, Lyautey en a 31 déjà. Et rentré en France, finalement, Lyautey, il se rend dans les Vosges, à Bruyère, et l'ennui le dévore. Ses lettres le montrent, il est en plein désarroi moral et religieux. Il va jusqu'à écrire « Ma foi catholique, elle aussi je l'ai aimée, mais d'elle aussi ». Les morceaux sont épars, brisés devant moi. Et Lyautey est désespéré, il n'a pas une trentaine d'années, quoi. Et dire qu'à 21 ans, il songeait à la vie religieuse, et le voilà maintenant, qui, comme il le dit à un ami, Henri Massis, il cesse de pratiquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer pendant les années qui vont suivre? Pourquoi cesse-t-il de s'approcher des sacrements, hein? La question est complexe, et sur ce point, le maréchal Lyautey a toujours été très réservé, même avec les siens. Alors, on peut se poser la question, comment se fait-il que le lieutenant Lyautey, futur maréchal Lyautey, semble perdre la foi, lui qui a pensé quelques années plus tôt, presque à rentrer à la Grande Chartreuse, ou à tout le moins se donner à Dieu? Eh bien, il dit seulement que l'étude de quelques textes ne lui a pas donné les certitudes qu'il cherche. Parfois, quand il parle de ses doutes, et ça ressemble tellement à des tas de gens aujourd'hui dans l'Occident, il se laisse aller à critiquer certains dogmes. Il dit « Je vais jusqu'au dogme du 19e siècle, mais je ne conçois pas tellement bien l'Immaculée Conception, ni l'infaillibilité du pain. » Cependant, à part ces dogmes-là, il est difficile de savoir de Lyautey les points précis qui le heurtent. Il y a une sorte de voile qui plane ainsi sur son attitude. Et on a l'impression qu'il s'est construit intérieurement une espèce d'édifice religieux simplifié, pas très catholique, mais qui demeure catholique. Il faut toucher aussi ici au sujet délicat. Il y a le tempérament de Liotti. Beaucoup de gens sont comme ça. Il est à la fois ardent et scrupuleux. Ça ne lui permet pas de demi-mesure. Et il n'a pas le goût d'être un catholique tiède. Il déteste ça comme la peste. Or, il est pris dans le péché de la chair. Ça lui paraît un obstacle insurmontable à la confession. S'il n'y a pas le ferme propos absolu de ne plus recommencer. Et le ferme propos lui manque. Il lui a manqué pendant plus de 40 ans. En fait, Liotti garde seulement certaines formes extérieures catholiques durant les longues années où sa vie active est portée au maximum. Donc après les Vosges, là, région de France où il a été stationné, comme on dit, eh bien Liotti est envoyé à Tours comme officier d'ordonnance auprès d'un général. Là, c'est le règne de la vie mondaine, facile. Liotti participe aux fêtes et l'idée de Dieu ne semble plus le hanter. Mais il y a une inquiétude profonde qu'il poursuit pourtant. Il écrit « spleen, spleen et re-spleen ». C'est dans son journal. Alors, il fréquente le fameux pasteur Wagner. Et l'absence de spiritualité religieuse le gêne, c'est pour ça qu'il fait ça. Il a donné sa démission, d'ailleurs. Il se nourrit des écrits du pasteur Wagner. Il lit les philosophes, Platon en particulier. Les exégètes allemands aussi, qui interprètent la Bible de façon assez audacieuse et qui sont protestants en général, ou français. Alors, il lit surtout les protestants. Et puis, il fait ça sans guide. Il est assailli donc de doutes sur le Christ, sur l'Écriture sainte. Il est toujours tenaillé d'une angoisse au fond de son cœur. Et lié intimement avec Melchior de Vogüé, le fameux Melchior de Vogüé, un grand catholique, Liotti fait paraître anonymement dans la Revue des Deux Mondes, sur les conseils de Melchior de Vogüé, une sorte d'essai qu'il va appeler « Le rôle social de l'officier ». Voyez-vous, toujours cette question sociale, le rôle social de l'officier. Mais son anonymat est vite percé, et c'est un beau tapage. On le traite d'officier révolutionnaire, de socialiste, et dans d'autres critiques, le blâme est à peu près général. Les uns trouvent les idées exprimées par Liotti beaucoup trop avancées, les autres pas assez. Il faut faire oublier les clameurs. Et c'est comme ça que l'auteur de l'article, le pauvre Liotti, est envoyé en quasi-exil, aux colonies, c'est-à-dire au Tonkin, en Indochine. Le 12 octobre 1894, cette date marque le début de la grande aventure coloniale de Liotti. Il est temps. La vie de garnison, doublée de succès mondains, énerve d'ailleurs Liotti, et ça risque de le dessécher. Et moralement, il réagit aussi mal devant les opinions de la libre pensée, des athées, que devant certaines étroitesses catholiques. Il se veut très authentique. Et il se sent pris entre ces deux courants de pensée. Sur le paquebot qui l'emporte au Tonkin, cet homme, comme je vous ai dit, authentique, se sent déjà transfiguré. Et très vite, eh bien, Liotti comprend la valeur de ces coloniaux français, trop décriés, qui font souvent quand même, pensons-y bien, office de missionnaires laïcs. Parce qu'il y en a beaucoup de très bons là-dedans. La chance le favorise. Il trouve au Tonkin un chef, le colonel Gallieni, et dans le dictionnaire aussi, c'est un homme admirable, à qui il va garder toute sa vie une admiration sans borne puis une grande reconnaissance. Il apprend tout d'abord ce que sont les principes du protectorat français quand la France protège, prétend-elle, un pays. Et qu'elle domine, qui fait partie de son empire. Mais il faut dire que l'empire français a souvent été au service des gens. Et il va appliquer ça plus tard, d'ailleurs, au Maroc aussi, où il va aller. C'est la manière de rendre confiance aux gens du Tonkin, en les débarrassant, avec tous les autres Français, des pirates chinois, en armant les villages libérés, en suivant sa formule, puis en cherchant à dominer sans humilier les Tonkinois. Il a le souci constant de faire de l'humain, quoi, du réel. Il élargit aux dimensions mondiales ses doctrines sociales. Et le Tonkin, bien, ce sont 3 années de découvertes exaltantes, puis d'actions fécondes auprès de ces gens merveilleux, de cette partie nord de ce qu'on appelle l'Indochine. Si on a l'impression que Lyoté n'est plus à la recherche de Dieu, il n'est pas moins vrai que Lyoté garde un respect profond pour l'œuvre catholique qu'il voit en Extrême-Orient, tous ses missionnaires, ses écoles, ses dispensaires, ses orphelinats, tout. Cet intérêt, il va le manifester aussi aux missions de Madagascar, quand Gallieni, nommé gouverneur de la Grande-Île en 1897, l'aura appelé auprès de lui. Il va rester 4 années dans la capitale de Fianarantsoa, où il administre et gouverne le tiers de l'île, pratiquement vice-roi. Et enfin, en 1903, après un bref commandement à Alençon, en Normandie, où est né en 1873 Sainte Thérèse Enfant Jésus, mais Lyoté se trouve avec joie sur la terre d'Afrique. Là. Ah, il est content. Il aime l'Afrique. En 1912, le gouvernement français nomme le général Lyoté résident général au Maroc. Avec le Maroc, Lyoté entre dans la grande phase de sa carrière. Et en 1909, il s'est marié, il faut dire, à 54 ans, avec Madame Fortoul, veuve du colonel Fortoul, qui a consacré son veuvage à la Croix-Rouge. C'est une très bonne épouse. En 1912, le Maroc se trouve en pleine crise. Lyoté, débarqué au moment de la révolte des Tabors, accourt à Fès. Le nouveau résident général, donc Lyoté, arrive fort d'une expérience coloniale de 15 ans. Il connaît ça. Il est nourri des grandes doctrines du protectorat français. Il est soucieux avant tout de quoi? De la dignité humaine. Et après la dure bataille de Fès, l'ordre est rétabli. Heureusement. En même temps, un essor prodigieux de travaux de paix. Il s'occupe de tout. Les routes se dessinent, les ports se creusent, les villes s'élèvent. Il construit des villes comme à vue d'œil. Les hôpitaux se construisent, l'ouverture des marchés suit de près les soumissions des tribus. Mais ça se fait malheureusement aux dépens des Marocains d'une certaine façon, puisque beaucoup de Français viennent s'établir au Maroc. C'est comme une invasion. Un peu comme pour la Palestine, les Palestiniens, quand ils ont vu arriver les Juifs d'un peu partout dans le monde. Pendant 11 années, le général Lyoté ne quitte pas le Maroc, sauf pour un court passage en 1917 au ministère de la Guerre, un passage de 3 mois seulement, parce que Lyoté était incapable de se plier à certaines mœurs parlementaires, là, qui sont plus ou moins croches à son avis. Et il donne sa démission, puis dès son retour au Maroc, là, il reprend ardemment son labeur parce qu'il aime les Marocains. Son goût plutôt de l'action se déploie, son sens humain s'approfondit au contact de ceux qu'il commande et qu'il gouverne. Mais dans ce tourbillon d'activités politiques et militaires, qu'est-ce qui advient de cette quête de Dieu? Qu'a fait le bonheur et la souffrance de sa jeunesse? Qu'est-ce qu'il va lui arriver? L'année 1920 marque, pour le Maroc, une période heureuse. Le général Lyoté peut en ressentir beaucoup de fierté. La pacification s'étend, la situation financière au Maroc s'améliore, suivant les développements agricoles et industriels auxquels il tient beaucoup. Le général raconte les progrès obtenus dans le Maghreb, il développe ses projets. Mais il lui faudrait beaucoup plus de temps, dit-il. Lyoté est comme angoissé par la fuite des jours. On sent sa hâte, tandis que le soir, il annonce l'avenir de cette contrée qu'il a choisie, qu'il voit chaque année grandir et prospérer sous son égide. En conclusion, il ajoute, comme le plus grand éloge du pays, le plus bel augure de cet avenir glorieux, passionnément désiré pour le Maroc, il dit, c'est le pays où l'on trouve Dieu. Hein, beaucoup de gens ont trouvé Dieu au Maroc, y compris Charles de Foucault. Et Lyoté vient de prononcer donc le nom ineffable, Dieu. Et du coup, tout s'en est trouvé changé. Comme Lyoté l'aimait, ce peuple marocain. Ah! Ce n'est pas une parcelle, mais un trésor d'amour qu'il a pour lui. Le Maroc, alors, l'a pris au moins autant qu'il l'a conquis lui-même. Il en admire les forces essentielles, mais ce qui lui est le plus cher, c'est l'âme marocaine, cette âme de l'islam sur laquelle il se penche avec sympathie depuis qu'il était lieutenant, cette âme religieuse, qu'il trouve profondément religieuse, lui. Ce mysticisme oriental a une influence, un rayonnement qu'il n'est pas possible de nier. Il est indiscutable que l'atmosphère religieuse de l'islam a profondément agi sur l'esprit de Psychary, Ernest Psychary, dont je vous ai déjà parlé. Ça a préparé, il l'a reconnu, la conversion du père de Foucault, comme elle a puissamment aidé à l'évolution de l'IOT. Je vous ai parlé souvent de Foucault, de Psychary, aujourd'hui de l'IOT. Ce sont trois personnes qui ont été fortement influencées par le désert. Aujourd'hui, les questions du maréchal IOT, je vous rappelle, comme je l'ai dit au début de l'émission, que ce sont sur photo et même dans les dictionnaires, les petits dictionnaires, et on parle toujours du maréchal IOT comme une des grandes figures de ce siècle. Et puis, d'ailleurs, on a publié il y a bien des années le maréchal IOT. C'est Pierre Croidy qui avait publié ça. C'était dans la collection Les grandes figures chrétiennes. C'est un très grand chrétien, en dépit de ses difficultés avec la foi pendant une partie de sa vie. Ça peut consoler beaucoup de gens. Nous avons eu tous, je pense, plus ou moins, des difficultés avec notre foi. Mais il y a des consolations pour les gens qui, comme lui, demeurent prêts à revenir. Alors, il est au Maroc. Il a établi de plus en plus une entente merveilleuse avec les Marocains, avec l'élite du Maroc, autant qu'avec le peuple. Il n'oublie pas le peuple, au contraire. Et tout ça demeure très solide. Et le sultan Moulay Youssef est reconnaissant de voir grandir son pouvoir, réduit en 1912 presque à néant. Alors, il collabore en toute confiance avec le résident général Lioté. Il fait, à l'égard de l'IOT, il lui rend un hommage jamais adressé à un chrétien. On ne se souvient pas de ça avant. Écoutez bien. Il y a une délégation de pèlerins musulmans de la Mecque qui rapporte au maréchal catholique un morceau de la bande brodée qui couvre chaque année la pierre sacrée de la Kaaba. Imaginez, l'IOT profondément touché de cette fidélité. Et cependant, le maréchal, qui est encensé et admiré, il rentre en 1920 à l'académie, il reçoit le bâton étoilé de maréchal en 1921, mais quelquefois même flagorné, il n'est pas apaisé. Non, éternellement insatisfait, ce Lioté. Oui, éternellement insatisfait. Il porte en lui comme une soif inextinguible. Avez-vous cette soif inextinguible de quelque chose, de quelqu'un? Ben, lui, il l'avait. Et parfois même, on a l'impression que l'action n'est chez lui qu'une sorte de fuite en avant. L'action. Une fuite devant je ne sais quelle angoisse, ou il fuit devant lui-même. C'est un besoin s'étourdir, l'action, souvent, Ah, oui. Les puissances, les honneurs, les jouissances laissent toujours dans le cœur de l'IOT un vide inexprimable. La nostalgie de son âme est infinie. Elle ne peut être comblée, son âme, que par Dieu. Et c'est cette anxiété intérieure qui permet à l'IOT d'utiliser avec fruit la plus grande épreuve de sa vie, c'est l'épreuve de l'ingratitude. Oui, en 1925, il y a une agression qui vient des montagnes. Elle est menée par Abdelkrim contre les Espagnols et les Français, puis ça met en danger le Maroc. Au moment où, avec des renforts chichement marchandés avec la France, le maréchal Lioté a rétabli la situation, bien le gouvernement français, probablement parce qu'il a des idées religieuses, j'imagine, sépare le commandement militaire du commandement civil. Il ne laisse que le commandement civil à Lioté, et là le maréchal, qui a toujours proclamé la nécessité du commandement unique, commandement militaire et commandement civil unis. Il donne aussitôt sa démission et son départ du Maroc a lieu dans des conditions sans pointable, sans excuse. C'est inexcusable. C'est affligeant pour la France. Mais comme on dit au Maroc, la baraka, ou si vous voulez, la chance de l'IOT, consiste justement à transformer les disgrâces successives de son existence en bienfait, comme il en a eu dès l'âge d'un an et quatre mois, vous vous souvenez? Tout se transforme chez lui. Au moment de son départ du Maroc, donc, loin encore d'être revenu à la foi catholique vivante, il se tient comme si une voix lointaine se faisait par intermittence entendre. Il semble que dans cette recherche spirituelle de la fin de sa vie, là, Lyoté est plutôt gibier que chasseur, comme dit sa belle-fille, Dieu, ce traqueur inlassable, qui nous court après, hein, n'oubliez pas, c'est un bon pasteur, hein, qui laisse toutes ses brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Mais il le pourchasse. Oui, Dieu le pourchasse. Dieu le veut entièrement à lui. Dieu lance les pierres de sa fronde, pourrait-on dire. Oui, Dieu monte Lyoté dans la gloire et semble ne lui avoir donné cette gloire que pour l'abattre de plus haut et lui faire comprendre que ce n'est qu'auprès de lui, totalement, qu'il va trouver le bonheur. Dieu est comme ça. Il a des trucs dans son sac, comme disait un petit garçon. À son arrivée en France, le maréchal s'installe dans sa propriété de Toré. Il est difficile, c'est une espèce de château, il est difficile de rendre l'amertume et la tristesse qui alors remplit l'âme de Lyoté. Privé d'un commandement qui pendant 13 ans a pris sa vie de minute en minute, habitué à connaître les questions mondiales, renseigné par métier sur tout, il se voit tout à coup jeté de côté, déraciné, comme un arbre mort. Il est mis à la retraite, hein? Il se sent inutilisé. Et qu'est-ce qu'il va faire du Maroc? Son Maroc. L'année 1926 est pour lui atroce. Il est réfugié dans son exil et le maréchal Lyoté erre comme un fauve en cage. Il ne cache pas sa souffrance. Il dit dans les effondrements qui se sont accumulés sur moi depuis un an. C'est ce qu'il écrit à sa femme, qu'on appelle la maréchale. Après une carrière dont je méritais mieux, et surtout après les injustices si cruelles de ces derniers jours, l'attitude du gouvernement et du haut commandement militaire, oh, j'ai vraiment besoin d'un peu de secours moral et d'un peu de douceur, et je vous adjure, il parle à sa femme, je vous adjure tendrement de me les donner largement, de m'être indulgente et de comprendre les angoisses dans lesquelles je me débats. Alors, c'est un aveu bien touchant dans la bouche d'un conquérant d'empire, Lyoté, si sensible à ses souvenirs de famille, qui se replonge tout naturellement dans l'atmosphère de sa jeunesse auprès de sa femme. Et cette atmosphère est catholique. Meurtri par sa disgrâce, il revient à ses sources intellectuelles et morales. Il revient à ses maîtres de l'adolescence, à sa famille, très religieuse. Et en 1926, attiré par le père Lejaune, fondateur du groupement des étudiants catholiques de Nancy, le maréchal Lyoté reprend peu à peu contact avec la jeunesse, cette jeunesse qu'il a toujours cherché à connaître et à éclairer. Et plus tard, il accepte la présidence d'honneur des Scouts de France. Puis il remplit ce rôle, même si c'est une présidence d'honneur, ce rôle avec beaucoup de plaisir et d'efficacité. Et là, nous arrivons en 1927, où va s'ouvrir la période décisive, c'est-à-dire celle de la rentrée définitive de Lyoté dans l'Église. Et là, comme souvent dans cette existence hors série, c'est l'inattendu qui arrive. En juillet, dans le parc de Toré, de son château, se tient un camp scout. Et parmi les routiers se trouve un étudiant en médecine, qui va devenir le docteur Paul Février, médecin, apôtre et social, et écoutez bien, Patrick Heidsieck, qui va devenir, lui, en 1933, l'abbé Heidsieck. Or, les prêtres ont un rôle à jouer pour nos âmes, c'est sûr. Et par une suite de petits faits, Patrick Heidsieck entre tout de suite dans l'intimité du maréchal. C'est un jeune homme merveilleux. Il est retenu à dîner au château. Il cause longuement avec le Lyoté, avec le maréchal. Puis, comme il va partir pour la Pologne, il se voit demander par le maréchal des lettres qui raconteront son voyage. C'est comme ça que ça commence. Oui. Une correspondance abondante et durable qui est le signe d'une amitié, qui a sur Lyoté une action peut-être décisive. Le maréchal Lyoté perçoit en effet à travers l'itinéraire là, qui conduit des jeunes hommes vers le sacerdoce, il voit là, lui, une force qui dépasse les idées humaines. Il faut que ce soit Dieu. Et en 1930, par une période de neige, là, il passe la Noël à Toré, dans son château. Dans cette maison calfeutrée, le maréchal range, classe la correspondance et les dossiers. Puis il circule dans sa demeure à la recherche d'un perfectionnement. Il cherche. Et sa belle-fille, Hélène Fortou, raconte, je lis le texte de sa belle-fille, « Par ces journées d'hiver, l'atmosphère était lugubre et parfois le maréchal, qui aimait voir près de lui une présence, me priait de m'installer avec mes livres dans son bureau. Un soir, il pose sur mes genoux une liasse de correspondance. Il dit, lisez ça. Je tenais les lettres de Patrick Heitzig, le prêtre. Le jeune routier scout, élève officier à Saint-Cyr, puis séminariste, qui écrivant à un maréchal de France, discute avec lui des questions d'exégèse de la Bible et de toutes sortes de questions spirituelles, avec une autorité qui est vraiment conférée par cette foi catholique, qui allait s'affirmer en un acte définitif. Et elle continue en disant « correspondance bouleversante, car à travers les réponses, je pouvais constater le changement. Survenu en lioté, mon beau-père. Depuis le jour, déjà lointain, où il contemplait avec tant d'intensité le pays où l'on trouve Dieu, le Maroc, maintenant, il était loin de l'attitude du spectateur désintéressé. Il était lui-même au fond du problème. Vous voyez où j'en suis, me dit-il au bout d'un long moment. Et là, j'ai levé la tête, les larmes aux yeux. J'avais maintenant la réponse à la question posée 10 ans plus tôt. Le maréchal lioté, rapproché de Dieu, rapproché de l'Église, était redevenu pratiquant grâce à un séminariste. Il avait fait sa confession de retour au Père Le Jaune et avait communié à Toré, dans son château, dans son village, dans l'Église, donc là, le jeudi 1930, et la réconciliation était accomplie dans sa plénitude. C'est une étrange influence, à la fois consciente et inconsciente, que celle d'un garçon de 21 ans, sur un homme de plus de 70 ans. Pourtant, si l'on y songe, il ne pouvait guère en être autrement avec Lyoté. Celui qui haïssait le prêche, tous les prêcheurs, ne pouvait être touché que par un exemple direct. Enrichi d'ardeur juvénile, Lyoté, qui a tant aimé les jeunes, a été aidé dans son retour complet par un jeune. Certes, ce séminariste n'a pas été le seul à l'influencer. Hommes et événements ayant spontanément agi dans le même sens à ce moment définitif. Et sa belle-fille continue en disant, citons, pour préciser un passage d'une lettre de Patrick Heitzig, j'aurais voulu vous écrire plus tôt, depuis ma prise de soutane, pour vous dire ma joie et ma paix. Chaque jour, dans la vie intérieure, il faut aller plus profondément et plus loin. Un séminariste qui écrit, la culture même surnaturelle du moi, ne peut être l'unique but d'une vie qui s'oriente vers la vie sacerdotale. Mais ce que je veux vous dire surtout, c'est que je prends maintenant conscience que cette vie, je la dois à l'Église, qui lui donne tout son sens, qui me guide et me pousse quand même. Je crois avancer seul. J'ai cru apporter quelque chose à l'Église en lui consacrant ma vie, je me trompais. C'est elle qui m'apporte tout. Vivre dans l'Église, écrit ce jeune séminariste de 21-22 ans, vivre dans l'Église, ce n'est pas suffisant, ou plutôt ce n'est pas possible réellement, sans vivre l'Église et sentir avec elle. Et cela qui me paraissait si difficile et devoir coûter à mon individualisme devient déjà plus naturel. Quel prêtre merveilleux, hein? Et la réponse de Lyoté, bien c'est, mon cher Patrick, sache que ta lettre m'a fait grand bien. Depuis mon nouveau charmant curé au voisinage fréquent des Oblats de Sion et mon intimité avec le Père Le Jaune, je vis dans une atmosphère dont je m'imprègne de plus en plus à cette communion intellectuelle et morale dans laquelle je vis avec eux. Eh bien, je sens chaque jour de plus en plus s'ajouter le besoin d'une communion totale. Et ta lettre m'est arrivée merveilleusement à point. Je vois le travail intérieur de ton âme. Et voici en quels termes Lyoté annonçait le jeudi saint, 1930, sa totale réconciliation avec l'Église. Il écrit à ce séminariste, « Mon cher Patrick, j'ai reçu ce matin la communion pascale des mains de mon curé de Toré. Ai-je à en dire davantage? Mais il s'agit de persévérer. Il ne me faut plus que jamais tes prières, Patrick. Or, Lioté écrivait quand il était à Saint-Cyr, écoutez bien, tout jeune, un peu de prière à genoux, la tête dans les mains. Eh bien, à la fin de sa vie, il fait le soir sa prière à genoux. Puis ils sont plusieurs à prier avec lui, parce que dans son château, il y a beaucoup de serviteurs. Après de longues années de sécheresse intérieure, il a réappris la force invincible de la prière, puis il en goûte la consolation. Il doit à la bienveillance du cardinal Verdi une cellule au séminaire d'Issy-les-Moulineaux chez les Sulpiciens. Et l'énergie du cardinal, sa force spirituelle, ça rafraîchit son âme brûlante. Ah, le maréchal Lioté est content d'avoir un cardinal comme ça. Et le maréchal sort de ses retraites, non tout à fait apaisé peut-être, mais il est moins amer. Le contact avec les hommes d'église, cardinal, évêque, etc., lui enseigne le détachement, parce qu'il se rend compte que dans l'église catholique, il retrouve l'ordre, la hiérarchie, la pérennité, tout ce qu'il aime et ce qu'il admire. Voici d'ailleurs quelques extraits d'une allocution faite par le maréchal Lioté. C'est rapporté par l'ambassadeur Vladimir d'Ormesson. Il s'adresse à des jeunes religieux. Il dit, « Voyez-vous, petit moine, tout est équilibre, tout est ordre. À côté de l'action, il y a la méditation. À côté de la lutte contre les éléments et les hommes, il y a la lutte contre soi-même. La vie ne serait qu'une folie incohérente si la spiritualité ne la réglait pas. Sans des hommes comme vous, des hommes comme moi ne seraient rien. » Imaginez, les jeunes moines devaient être contents d'entendre ça. Hein? Et le moment maintenant approche. Il va se terminer cette vie si remplie. En mai 1934, le maréchal Lioté a malheureusement une jaunisse dont il semble se remettre. Et sa belle-fille raconte que le 15 juillet, nous dînions chez lui, rue Bonaparte, à Paris, en famille, avec ma mère et ma sœur. Jamais il n'avait été plus brillant, plus charmeur. Le lendemain, il partait pour Toré, sa résidence de campagne, et 11 jours après, exactement le 27 juillet, il quittait pour toujours notre terre. Sa dernière maladie est donc brève et sans grande souffrance. La crise d'urémie qui l'emporte ne le prive pas de sa connaissance. Il se rend compte de son état jusqu'au dernier moment. Le jour vient où le vieux maréchal Lioté apparaît aux yeux des médecins comme à toute extrémité. La nouvelle se répand dans le village. Alors le village se met doucement en marche. Les vieux et les jeunes entrent au château et montent nombreux jusqu'au couloir qui précède la chambre du mourant. Cette chambre du maréchal Lioté est très simple. Elle n'est riche que de souvenirs et auprès du lit de cuivre, il y a une étagère qui porte avec les livres familiers beaucoup de photographies. Puis au-dessus du lit, qu'est-ce qu'on voit? L'image de la grande chartreuse. Il avait songé à se faire chartreux. Le père de Nicolai, général des chartreux, l'en avait dissuadé. Alors il est environ midi. Depuis 9 heures du matin, le maréchal ne parle plus. Ses yeux clos sont clos vraiment. Il halète par intervalles. Il ne peut plus ouvrir les yeux. Sa famille et ses officiers se tiennent à son chevet. Le curé de Toré, qui l'a confessé et communié, voit que le moment du grand passage est venu, puis commence ses prières des agonisants, puis dans la chambre, dans le couloir, il se fait un grand remous. Tous les assistants se sont agenouillés. Ce bruit insolite parvient jusqu'au mourant, il comprend. Et là, tout à coup, il ouvre les yeux tout grands. Il se soulève sur les coudes avec une soudaine brusquerie, et pleinement éveillé, lucide, il promène sur l'assistant stupéfait de son regard sans peur, et d'un grand geste volontaire, il dessine sur sa poitrine le signe de la croix. Avant de retomber immobile à l'ombre de cette grande chartreuse, où il a 20 ans cherché l'amour de Dieu. Et ainsi meurt publiquement. On peut dire comme un roi de France, au fond. Louis-Hubert Gonzalve Lioté. Son épitaphe, composée par lui-même, fixe mieux qu'un long commentaire la vérité sur son état d'âme des derniers jours. C'est écrit sur son épitaphe, « Décédé dans la religion catholique, dont il reçut en pleine foi les derniers sacrements. Il faut remarquer, en pleine foi. C'est une formule inhabituelle, mais précise, par laquelle le maréchal Louetté entend sûrement répondre à certaines réflexions qu'il devine d'avance. Non, le catholicisme du maréchal n'est ni une attitude, ni un formalisme. Il répondait à la réalité de son âme. Louetté, le prévoyant, a fait graver sur la pierre l'expression de cette foi. À la messe aujourd'hui, par hasard, Jésus déclare, c'est dans Saint-Luc, chapitre 19, verset 10, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et cette parole qui s'applique à Louetté, qui est tirée de Saint-Jean, chapitre 15, « Lui qui a donné sa vie aux Marocains, aux Tonkinois, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit le Seigneur. Ô toi, Père, qui nous as fortifiés par la vie de ton Église et par la communion, aide-nous à suivre l'exemple de Sainte Élisabeth de Hongrie, dont c'est la fête aujourd'hui, dans l'amour qu'elle a su te témoigner et la charité dont elle a fait preuve envers ton peuple de Hongrie. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et nous te demandons aussi par le même fait qu'en suivant l'exemple du maréchal Louetté, nous puissions revenir sérieusement à notre foi catholique, à notre foi chrétienne, pour vraiment en vivre pour vrai.